C'est le dernier acte d'un feuilleton politico-judiciaire. Mardi, s'est ouvert au tribunal correctionnel de Paris le procès Tarnac, faisant suite à l'affaire dite de Tarnac, qui remonte, elle, à 2008. Ce procès doit durer jusqu'au 30 mars. Dans le box des accusés, 8 prévenus, dont Julien Coupa, 43 ans, présenté comme le théoricien du groupe, son ex-compagne, Hildune Lévy, 34 ans, Elsa Hawk, 33 ans, et Bertrand Devaux, 31 ans. Ils sont tous les quatre poursuivis pour association de malfaiteurs et dégradation d'un bien appartenant à autrui, en l'occurrence un TGV de la SNCF et des câbles électriques de Réseau Ferré de France. Il y a 10 ans, au moment des faits, l'affaire avait eu un fort retentissement. Les mêmes étaient accusés d'avoir fomenté un acte terroriste. Aujourd'hui, c'est un procès de droit commun et plus grand monde n'en parle. Bonjour François Cusset.
Bonjour.
Bienvenue dans ces matins du samedi. Vous êtes historien des idées, professeur à l'université de Nanterre et essayiste après la droitisation du monde parue chez Textuel en 2017. Vous allez faire paraître d'ici quelques jours, le 22 mars, peut-être que la date n'est pas par hasard, aux éditions La Découverte, Le déchaînement du monde, logique nouvelle de la violence. Quel sens a ce procès aujourd'hui, 10 ans après les faits?
Peut-être, commençons par une hypothèse aussi ubuesque que les 10 ans d'enquête sur cette affaire. Peut-être que la police, la justice et l'État essayent de sauver ce qui pourrait rester de leur honneur, puisque la déqualification de l'acte, de ces actions comme terroristes, aurait dû faire abandonner toute poursuite. Mais on préfère un entre-deux, donc continuer les poursuites effectivement pour association de malfaiteurs.
Déqualification, pardon de vous interrompre, qualification qui est arrivée en janvier 2017, donc déjà 9 ans après les faits.
Très très tardivement. À la limite, on peut oublier le fait que ça a été déqualifié, peu importe l'adjectif. On est face à une histoire effectivement rocambolesque. Là, on a un déchaînement de forces de police, de forces de sécurité, de services antiterroristes qui fonctionnent quand même un peu comme une police politique, avec beaucoup moins d'efficacité, certes, qu'à la grande époque, et qui n'arrivent pas, avec toutes leurs intentions, pourtant politiques et maléfiques, à prouver quoi que ce soit, si bien qu'en l'absence de...
Le sabotage a eu lieu, le sabotage de la ligne TGV a bloqué même une centaine de trains, elle a retardé 20 000 voyageurs, mais ce que la police et l'enquête judiciaire n'a pas prouvé, c'est le lien entre Julien Coupa, le groupe de Tarnac, et ses sabotages.
Voilà, aucun lien n'ayant été prouvé. On se souvient du témoignage qui avait été un peu soutiré et qui en fait n'en était pas un. Enfin voilà, ce qui aurait pu être l'ébauche d'une preuve ne l'est pas, donc il n'y en a pas. Si bien qu'à la fin, ce qu'on reproche à ces gens qui vivent donc ensemble, collectivement, dans cette région du Limousin, c'est une intention. Donc quelque chose qui ne relève pas du juridique. Il faut savoir que les lois antiterroristes sont les seules lois donc qui dérogent au droit commun puisque elles se basent sur une intention. Alors moi je peux toujours, Caroline, lire dans vos yeux l'intention de commettre un acte néfaste en quelques minutes, mais j'en aurai aucune preuve objective. Donc ça relève de l'intention et les seules preuves qu'on peut avoir, les seuls éléments qui vont dans le sens de cette intention, c'est donc des écrits, des livres. Et là où vraiment l'histoire est rocambolesque, c'est qu'en fin de compte, ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir écrit des propositions théoriques et pratiques, plus théoriques que pratiques, je trouve. D'ailleurs, vous avez vu, on l'appelle pas chef de clan, leader autoproclamé, on l'appelle théoricien du groupe Julien Coupa. C'est-à-dire que ce qui est reproché là, c'est d'avoir réfléchi, pensé, constaté qu'un certain état du monde pouvait inciter à un appel à la mobilisation.
Alors que les écrits en question, François Cusset, c'est notamment l'insurrection qui vient, manifeste de 2007, dont Julien Coupa s'est toujours refusé à dire qu'il était l'auteur de ce livre. Et c'est quand même devenu un classique de la littérature contestataire, ce livre.
Bon, alors ça c'est une autre affaire qui est intéressante aussi, c'est le fait qu'on peut écrire collectivement et qu'on n'est pas obligé d'écrire avec un nom d'auteur, une photo d'auteur, une promotion, et voilà que l'anonymat en matière théorique ou même littéraire a encore un intérêt. Bon, ça c'est une autre affaire. Ce qui est sûr, c'est que les seuls pavés réels lancés dans la vitrine de l'État sont des pavés de pages tout à fait légaux, parus en librairie, où effectivement ils ont eu un certain succès. Et je crois vraiment que c'est un signe d'époque. C'est-à-dire que si on prend il y a 30, 40, 50 ans, ce type de texte, ce type d'écrit, alors avec des arguments différents, il y a quand même une nouveauté relative des textes du Comité Invisible, mais ce type d'argument était commun en librairie, c'était à la limite presque banal, et ces appels aux armes, si c'en est, faisaient des succès de librairie. aujourd'hui dire cela, appeler à cela, est effectivement taxé de terrorisme. On peut même dire que l'opposition résolue, intégrale, de tout son aide, de toute sa vie, à la façon de vivre imposée aujourd'hui, cette opposition prenant la forme voilà, d'une décision de vivre ensemble, de manière plus ou moins autosuffisante, dans une ferme reculée, donc on voit qu'il n'y a pas grand-chose d'insurrectionnel là-dedans, cela est taxé, enfin a été taxé de terrorisme. C'est comme si l'opposition à cette forme de vie était aussi grave, si vous voulez, qu'un attentat djihadiste. Alors, faut évidemment, les services antiterroristes se sentent un peu ridicules d'avoir mis tous ces moyens au service de cette enquête quelques mois, quelques années avant la vague d'attentats de voilà de 2015-2016 qui pouvaient pas prévoir. Mais on est là vraiment, c'est ubuesque.
François Cussé, dans une tribune collective parue dans Le Monde cette semaine intitulée « Pourquoi nous continuons de soutenir les inculpés de Tarnac ?» et signée notamment par le philosophe Giorgio Agamben, l'historienne Ludivine Bantini, le philosophe Alain Badiou, l'écrivain Olivier Cadio et bien d'autres encore. Ils écrivent « Cette affaire raconte comment l'antiterrorisme est devenu non une simple politique de répression mais un rouage essentiel de l'action publique » et finissent par parler de farce. Qu'en pensez-vous ?
Ouais, de farce. Il y a quelque chose de shakespearien, donc je ne sais pas si c'est la partie farce ou tragique de l'œuvre de Shakespeare. Ce qui est sûr, c'est que les pouvoirs politiques, en l'occurrence l'État, ont toujours eu besoin de fabriquer des figures d'ennemis symboliques, d'ennemis invisibles, hein, parce que l'ennemi invisible, c'est beaucoup plus efficace pour apeurer la population que l'ennemi visible qu'on a pu épingler. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, on peut dire au passage qu'il n'y a pas que l'État qui a joué ce rôle-là. Au début, en tout cas, dans les premières années, après l'arrestation spectaculaire du groupe de Tarnac, les médias, libres pourtant, ont joué un bon rôle de relais pour diffuser cette peur, fabriquer l'idée qu'il y aurait, avec ces fameux traits d'union,
c'est qui les médias,
une ultra-gauche anarcho-autonome, bah, tous ceux qui ont couvert l'affaire, qui ont repris le langage même des services antiterroristes, hein, c'est-à-dire, c'est vraiment ces mots à traits d'union qui sont si étonnants, c'est-à-dire, on est anarcho-autonome, on est d'ultra-gauche et pas d'extrême-gauche.
C'était la ministre de l'Intérieur de l'époque, bien sûr, Michèle Alliot-Marie, qui avait parlé de cette ultra-gauche mouvance anarcho-autonome. Aujourd'hui, d'ailleurs, Julien Coupa est plutôt dans la presse dont vous parlez, dans certains journaux qualifiés de militants libertaires, c'est un peu moins violent, disons, comme accusation.
Disons que le vocabulaire de la presse a suivi l'évolution de l'enquête, hein, elle a été déqualifiée comme terroriste, donc il est désormais libertaire et non plus anarcho-terroriste. Mais bon, il y a là donc à la fois la fabrication d'un ennemi invisible qui permet de faire diversion d'abord sur les questions essentielles, de justifier une certaine violence policière d'État, et puis quand même de dissuader les jeunes, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de se mobiliser de cette façon-là, ou d'autres façons d'ailleurs, puisque ça ne sert à rien, ça mène en prison ou à la violence terroriste aveugle. L'argument, voilà.
Alors, ils encourent quand même 5 à 7 ans de prison, hein, si l'on en croit maintenant les journaux, et en particulier le compte-rendu qu'on a fait dans la presse Le Figaro. Mais dans ce même compte-rendu d'ailleurs, les prévenus semblent narquois. J'ai sous les yeux un article du Figaro de cette semaine, signé Stéphane Durand-Soufflant, qui insiste beaucoup sur les ricanements, la décontraction extrême, l'air goguenard des accusés. Est-ce que, François Cussé, on est face à des garnements mal élevés et qui ne respectent malgré tout rien, ou est-ce que eux-mêmes veulent tourner en dérision une institution qui, de fait, s'est enlisée pendant 10 ans? Quelle est votre interprétation?
Je crois que l'institution se tourne en dérision elle-même. Hein. Les 10 ans d'enquête montrent bien qu'il n'y a pas besoin d'en rire ou d'ironiser pour que ce soit ridicule. Faire attention à commenter psychologiquement des comportements d'individus dans le box des accusés. Mais si on va dans cette direction-là, n'oublions pas que la peur, parce qu'il ne doit rien avoir de leur part, je suis désolé, 5 à 10 ans de prison, même si on peut imaginer que vu le peu d'éléments, le risque est faible, mais enfin il existe, il n'y a pas de quoi rire, et donc ils sont sûrement partagé entre peur et sentiment d'une grande absurdité, effectivement, d'un grand grotesque, mais une peur réelle. Et ben oui, la peur peut dériver à une sorte de réflexe de survie, comme ça on se ressaisit en ironie, en moquerie ou même en provocation. Mais je crois qu'il y a de leur part un partage effectivement entre l'angoisse, parce que c'est vraiment angoissant qu'on puisse vous faire ça, ça peut arriver à tout le monde finalement, et effectivement le dérisoire de la situation.
Si on élargit un peu la focale avec vous, François Cussé, en partant justement de cette présentation, qualification d'ultra-gauche et de mouvance anarcho-autonome. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, on assiste à un certain nombre, une multiplication de mouvements différents? Certains parlent de nébuleuses, ça c'est pas forcément très positif dans la bouche de ceux qui en parlent, mais peu importe. Est-ce que vous diriez, par exemple, que ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, les fameuses ZAD, c'est de l'ultra-gauche, par exemple?
Là aussi, il ne faut pas qualifier, aucun qualificatif ne fonctionne. Ce qui est sûr, c'est que là aussi, et l'État, enfin sa police et ses services de justice, et les médias, sont mal à l'aise face à des formes de protestation qui ne relèvent pas des catégories habituelles, c'est-à-dire aussi des affiliations politiques habituelles, des partis, des syndicats, lesquelles organisations ont pu être radicales à certaines époques. Hein. C'est pas parce qu'on est un parti qu'on est tout mou et tout gentil. Mais comme ça ne relève pas de ça, et comme effectivement la nouvelle génération contestataire est même très réticente à s'affilier, à s'encarter, à même accepter les qualificatifs qu'on lui attribue, et ben faute de pouvoir pointer ce qu'elle est, lui donner un nom, on décrit cette espèce de nébuleuse, fantomale, spectrale, d'autant plus dangereuse qu'elle n'a pas de nom. Après, plus sérieusement, plus empiriquement, hein, plus sociologiquement, il y a une démultiplication des formes de la protestation le long d'un spectre qui va de formes qu'on pourrait dire extrêmes, au sens où il y a affrontements physiques résolus, hein, volontiers, où il y a dissidence complète. Hein, on quitte les villes, les vies normées, les emplois, les études pour aller vivre entre soi, jusqu'à des formes infimes. Alors celle-là, on n'en parle pas. Celle-là, il n'y a pas d'enquête policière, mais qui peuvent être des illégalismes au quotidien, des petites fraudes, des refus, des moqueries. Donc je crois qu'il y a actuellement un réveil social qui prend des formes inattendues, quotidiennes, routinières, petites ou grandes, et qu'il n'est pas étonnant que là aussi, État et médias affublent à ces contestataires des noms comme ceux-là. Ce qu'il faut voir plutôt, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en pleines années 2010, ces formes-là se développent, une génération, la jeune génération contestataire...
Donc ce qui se passe par exemple à Notre-Dame-des-Landes, ce qui se passe à Bure, en ce moment par exemple, on parle de ça, hein, François.
Oui, bien sûr. Alors, le phénomène des ZAD, mal nommé parce qu'il n'y a pas que des zones à défendre, c'est la convergence d'éléments assez étonnants qu'on ne voyait pas là aussi dans les années 60-70, c'est-à-dire que c'est lié à des territoires. On est sur des territoires, on s'y installe, on les rejoint, attention, c'est pas des territoires patriotes, nationaux, hein. Les zadistes de Notre-Dame-des-Landes sont très rarement du coin, mais ils ont rejoint ce coin, ils cultivent la terre, ils s'organisent depuis plusieurs années maintenant, donc il y a un aspect de territoire, il y a un aspect de vie, au sens de vie organisée, quotidienne, avec des questions très concrètes, qui sont des questions politiques, hein, qui font de, comment on se fournit en électricité sans payer l'opérateur national, ou qui fait la vaisselle ce soir, et qui vont aussi jusqu'à des formes d'opposition directes qui peuvent
parfois
être
violentes,
physiques et violentes, mais la violence comme une option
tactique, on l'a encore vu cette semaine,
une option provisoire, transitoire, et puis surtout la violence comme une réaction de défense, j'ai envie de dire de légitime défense collective à la violence d'État qui, attention, est toujours première.
La violence, on va en reparler puisque c'est le sujet d'ailleurs de ce nouveau livre, François Cusset, que vous publiez la semaine prochaine, hein, Le déchaînement du monde, logique nouvelle de la violence. Mais pour l'heure, il est 8h30 sur France Culture, c'est l'heure de la revue de la semaine. Restez avec nous, on vous retrouve dans 3 petites minutes.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet.
Et aujourd'hui, c'est vous, Émilie Chaudet, qui assurez la revue de la semaine. Bonjour Émilie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Et pour commencer, vous nous parlez de deux textes, deux regards sur la réforme de la SNCF et les mouvements sociaux qui s'annoncent.
Le mouvement social aura-t-il lieu? Ces deux tribunes sont tout aussi pessimistes l'une que l'autre, mais n'offrent pas la même analyse, c'est le moins qu'on puisse dire. 2018 n'est pas 1995, décide Stéphane Rosès dans le journal Le Monde. En 2018, je le cite, la symbolique incarnée par un président Bonaparte préempte la question sociale, détourne les Français des cheminots. Et le consultant écrit encore plus loin que cette incarnation de Bonaparte semble tenir ensemble les mois dispersés de la Startup Nation et des catégories populaires. Un avis très personnel donc, contrebalancé par les mots de Pierre Bourdieu, que nous rappelle Christian Laval sur le site AOC, un discours tenu à la gare de Lyon le 12 décembre 1995 devant une assemblée de cheminots en grève et qui appelle à reconquérir la démocratie face à la toute-puissance de ce qu'il nomme la tyrannie des experts. Ce qu'il lutte, dit-il, le fond contre la destruction d'une civilisation associée à l'existence du service public. Destruction que le sociologue attribue, je le cite, à une noblesse d'État qui a fait du bien public un bien privé, de la chose publique, de la République, sa chose. Et c'est là que, selon Christian Laval, Pierre Bourdieu nous livre plus de 20 ans après les clés de la période que nous vivons. Pourquoi le mouvement social peine-t-il aujourd'hui à émerger? Parce que, je cite l'article, la réussite de Macron consiste à avoir su rassembler autour de lui une grande partie des responsables politiques de droite et de gauche qui ont mis en œuvre depuis plusieurs décennies une même rationalité politique, à savoir, je cite toujours, un État aux mains d'une élite bureaucratique, une loi supérieure de la concurrence et de la performance et une démocratie parlementaire et sociale qui doivent être contournées ou violées par des procédures d'urgence et des diversions en tout genre, comme par exemple ici le mensonge de la dette de la SNCF due au statut des cheminots.
Et on n'ira pas en train, mais on part maintenant aux États-Unis où ce mercredi, des milliers d'étudiants sortis de leurs écoles pour manifester contre les armes et la violence.
Il y a ces courtes vidéos et ces photos, parfois très émouvantes, publiées dans le New York Times, des foules de visages, filles, garçons, capuches, bonnets, voiles ou casquettes, des visages d'une même génération et d'une même expression, regard déterminé, bouche fermée, la photo d'une colère silencieuse à New York qui contraste avec celle lumineuse, plein soleil, d'une jeune fille toute seule, sur vêtements colorés, sur un parterre de béton à Columbine, et cet écriteau « Enough is enough ». Trop, c'est trop. Il y a aussi des larmes devant des mémoriaux à Parkland, des panneaux qui demandent qui seront les prochains à mourir. Ce sont des photos prises aux quatre coins des États-Unis, de ces marches de collégiens, de lycéens contre les violences et les tueries en milieu scolaire, des centaines, voire des milliers d'étudiants, selon les États, qui ont quitté leurs établissements à 10h du matin ce mercredi, parfois contre l'avis des proviseurs, précise le journal. Et ils ont marché silencieusement ou non pendant 17 minutes environ, 17, comme le nombre de victimes à Parkland il y a un mois.
Et aujourd'hui, pour finir, à l'occasion du Salon du Livre, le journal Libération a donc invité plusieurs écrivains à nous livrer leur regard sur l'actualité.
Kauter Hadimi nous livre une double page sur la visite hier d'Angela Merkel à l'Élysée. Luc Mogelson avec Guerre et Plaie en Afghanistan revient sur 17 ans de conflit et d'enlisement des troupes armées américaines dans le pays. Et puis il y a le très court billet de Mathieu Berman sur la mère et la sœur d'un trio de dealers expulsés tous ensemble d'un même logement HLM à Compiègne à cause de l'activité illicite des frères. Alors qu'est-ce qu'une mère? Qu'est-ce qu'une sœur? Doivent-elles aussi payer? Qu'est-ce qu'un habitant des quartiers difficiles? Telles sont les questions que pose l'auteur. Enfin, je signale à nos auditeurs le très bel article signé Didier Blonde sur l'un de ses sujets de prédilection, le cinéma muet allemand, à l'occasion d'un cycle programmé à la Fondation Jérôme Sédoux-Pathé. L'auteur du Figurant, qui vient de paraître chez Gallimard, y parle de lui, de sa découverte d'un cinéma où tout devient possible. Je le cite, « Faire venir une femme sur la lune, montrer la mort fatiguée de séparer des amants, des muets qui, selon ce que l'auteur a toujours défendu, sont toujours d'actualité et, comme certains discours, n'ont pas fini de nous parler. »
C'était la revue de la semaine par Émilie Chaudet. Une réaction, François Cusset, à ce que vous venez d'entendre? Je pense notamment peut-être au discours de Pierre Bourdieu à la gare de Lyon en 95. « Ceux qui luttent le font contre la destruction d'une civilisation associée à l'existence du service public ». Je pense aussi évidemment à ces milliers d'étudiants sortis de leurs écoles pour manifester contre les armes et la violence. Votre prochain livre qui sort la semaine prochaine s'intitule « Le déchaînement du monde, logique nouvelle de la violence
». Oui, il faut faire attention à la comparaison entre les époques, hein, parce que on va un peu vite en disant que 2018 ne sera pas 95.
Et encore, je ne vous ai pas posé la question de 68. Voilà, mais on va y venir, les commémorations
sont
bientôt. Pareil.
C'est-à-dire, on se souvient tous du fameux éditorial d'avril 68, la France s'ennuie, dans ce pays prospère, rien n'aura lieu, et deux semaines plus tard, tout avait lieu. Donc là, vraiment, faudrait pas aller trop vite en besogne. Souvenons-nous ce qui s'est passé pendant l'automne 95, hein, les réformes du gouvernement d'Alain Juppé, au fil desquelles tout les élites, les éditoriaux, les intellos disent tous, il est impossible que les gens se mobilisent contre ça, parce que c'est le bon sens. Ces réformes sont le bon sens, soyons modernes, cessons d'être archaïques, vieux animaux revêches. Voilà, le progrès va dans ce sens-là, il est donc logiquement impossible qu'on s'y oppose. Ils ont dit ça pendant 3 mois, jusqu'à ce qu'on se retrouve mi-décembre 95, avec la plus grande grève en France depuis mai 68. Donc, je fais un peu de wishful thinking parce qu'il est tôt le matin, pour dire que on peut imaginer ou espérer que la même chose ait lieu ce printemps. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le...
Ça fait déjà 2 ans que vous le dites, hein, d'ailleurs, François Cussey. Au moins, parce qu'il y a 2 ans, vous écriviez que tous les ingrédients d'une révolte sociale étaient là. Donc, on est 2 ans après, on est aussi après une élection présidentielle. Peut-être que les choses ont changé.
Si tous les ingrédients sont là, on dirait que le général Macron est en train d'allumer la mèche. Parce que ce qui a lieu, c'est quand même un blitzkrieg. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire une guerre sur plusieurs fronts. Une guerre sociale, hein, faite, alors que ce soit le statut des cheminots, que ce soit la réforme de l'université, Parcoursup, la sélection à l'entrée en licence, qui est contradictoire avec le principe même de l'université, que ce soit les ordonnances travail, hein, qui ont détricoté le droit du travail rapidement et discrètement. Toutes ces choses-là vont dans le même sens, à une vitesse stupéfiante, tellement stupéfiante, juste après une élection, qu'il y a une torpeur, quand même, du mouvement social qui s'ébroue, se mobilise, mais enfin, péniblement, pas encore largement. Attendons de voir. Les semaines à venir vont être cruciales.
Ce que vous dites, François Cussey, prolonge ce que vous disiez tout à l'heure, avant... La revue de la semaine d'Émilie Chaudet, à savoir qu'on est face, si je vous suis bien, à une violence d'État. Là, vous avez parlé même de guerre, guerre sur tous les fronts. D'un côté, il y aurait la violence d'État, qui n'est pas nécessairement bonne, en tous les cas, à vos yeux. Et puis, de l'autre côté, pour l'instant, de la torpeur, mais des petits mouvements qui sont des actes et des gestes de la vie quotidienne et qui, eux, ne sont pas qualifiés de violence, en tous les cas, dans votre bouche ou sous votre plume.
Alors, d'abord, le mot violence, même si j'y consacre un livre entier, est un mauvais mot.
Vous c'est finissez
un mot...
par dire ça, oui.
Voilà, c'est un mot piégé, c'est vraiment le mot du pouvoir. Ça permet de mettre finalement toutes les formes de protestation dans le même sac. Et sous le mot violence, on peut aussi bien mettre ce qu'on appelle des casseurs, qui ne sont pas des casseurs, qui peuvent être des protestataires.
Mais qui sont des violents.
Qui commettent des actes violents. Attention à la différence entre l'adjectif et le substantif.
Alors pourquoi d'un côté il y aurait des actes violents et de l'autre il y aurait une violence qui aurait vos faveurs?
Parce que le substantif, ça voudrait dire qu'on est violent par essence, par nature, hein. On est violent, ou il y aurait une sorte de déterminisme qui ferait de vous des violents. L'adjectif, ça veut dire que c'est des circonstances. C'est-à-dire que nous tous sommes tranquillement en train de discuter autour de cette table. Si l'un d'entre nous est enlevé par des policiers masqués, ou qu'autre chose a lieu qui nous choque vraiment et nous brutalise, il est possible que tout à l'heure, demain matin, on ne soit plus non violent.
Mais quand on va brûler une voiture de policier, je pense à celle-là qui est arrivée en plein Paris en 2016, les policiers dans leur voiture subissent un acte violent. Quand on va poser un camion au milieu d'une aire d'autoroute, de l'autre côté, on subit un acte violent.
Oui, donc, oui, l'acte est
violent.
Ça dépend
de quelques points de vue qu'on se place. C'est un acte violent, une forme de violence. Je ne sais pas pourquoi. D'un côté, ce serait la grande violence d'État, et de l'autre, une riposte ou une forme de résistance.
Non, c'est le discours qui est produit à partir de ces actes-là, de ces épisodes-là, qui peuvent être fortuits, qui peuvent être graves ou pas graves, qui en tout cas sont isolés, attention, mais à partir duquel on produit un discours général sur la violence intrinsèque d'une certaine partie du corps social, la partie non contrôlée, incontrôlable, qu'il faudrait donc mater immédiatement.
C'est comme ça que l'ultra-gauche est souvent présentée comme une menace pour l'ordre public, menace pour la vie institutionnelle et la vie démocratique, alors que d'autres disent que c'est un épouvantail politique.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette opération étonnante, ça c'est de la science politique très ancienne, les pouvoirs ont toujours fait ça, consistant en fait à appeler violence ceux qu'on s'apprête à traiter, et donc pour prévenir leur violence, à traiter violemment. Ça se voit de façon beaucoup plus flagrante dans le cas justement des réfugiés ou des migrants, c'est-à-dire que lorsqu'on les arrête brutalement, lorsqu'on les refoule avec toute la brutalité policière, c'est au nom de l'ordre public pour éviter... parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde et parce que, en termes sanitaires comme d'insécurité, ce serait dangereux. Donc vous voyez, la violence qu'on leur inflige devient la violence que eux menacent d'exercer contre nous. Ça, c'est vraiment une vieille opération des pouvoirs. À la limite, ça avait lieu pendant la ségrégation aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on condamnait un noir innocent parce que tout simplement, la violence qu'il pourrait éventuellement commettre si ses amis étaient lynchés doit être prévenue par avance. Bon, mais attention, c'est pas de ça que traite mon livre. Et je veux juste revenir sur un mot que vous avez employé, Caroline. C'est pas la violence d'État qui est l'objet de mon livre parce que ça, c'est pas neuf.
Non, ça, c'est ce que vous disiez à la... Je réagissais à ce que vous veniez de dire, pardon.
Non, mais disons que ce qui est nouveau, si on veut chercher du nouveau, parce que c'est ça,
la grande question, c'est... C'est ce que vous faites, vous cherchez du nouveau.
Voilà, c'est qu'est-ce qui est neuf autour de cette question de la violence? Le monde est-il plus ou moins violent aujourd'hui qu'hier, etc. C'est plus la violence circonscrite d'un appareil d'État, c'est une violence générale, pérenne, constante, ordinaire, qui n'est pas la saillie d'un coup qu'on peut porter sur quelqu'un, ou d'un coup d'État, ou d'une intervention policière, qui est une violence instituée, institutionnalisée, presque invisible, puisqu'en grande partie psychique, hein, là il faudrait parler de violence au travail,
d'autres diraient symbolique,
de stress, de burn-out, violence symbolique aussi, c'est-à-dire ça détruit des vies, ça dévaste des organismes, hein, on a mal partout, et peut-on appeler violence effectivement ces phénomènes-là, ou garder le mot violence vraiment pour le poing dans la figure? Moi je pense qu'il faut s'intéresser aux nouvelles formes, aux nouvelles logiques qui justifient, qui pérennisent, qui instituent ces vies violentes, sans quoi on va faire comme certains essayistes, je pense pour ne pas le nommer à... le psychologue canadien Steven Pinker. Voilà, c'était le bouquin de l'automne dernier.
La part d'ange en nous.
Voilà, qui dit, comme beaucoup de gens le disent, comme les bons esprits le disent dans la presse, qu'après tout, on vit dans un monde
avec la presse n'existe pas, pardon.
C'est vrai, bien, les presses. Mais en tout cas, qui nous disent tous que on n'a pas à se plaindre, parce que finalement, c'est beaucoup moins violent ici que là-bas, aujourd'hui que hier, etc.
Mais qu'est-ce qui vous fait dire, vous, François Cusset, qu'il n'a pas raison?
Parce que on ne peut pas s'en remettre à des éléments statistiques et quantitatifs. Évidemment, lui, il s'en remet à des statistiques de morts. Alors du coup, le nombre de morts par rapport à la population totale. Donc du coup, il en conclut que le siècle le plus violent de l'histoire humaine, c'est je ne sais plus quel siècle du premier millénaire où en Asie centrale, il y a eu tellement de morts qu'effectivement, ça a décimé une partie de la population mondiale. Et à côté de ça, dit-il, le XXe siècle est plutôt tranquille. Mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que la violence, c'est précisément l'effet durable d'un coup qui est porté. Alors évidemment, si on meurt, l'effet est plus que durable, il est éternel. Mais si on n'en meurt pas, hein, je cite une formule magnifique de Simone Weil, la philosophe, qui en 1939 parle de ça, qui dit « le plus dur, le plus violent, c'est ce qui ne tue pas ». Et elle dit, elle précise, « ce qui ne tue pas encore ». Ben, c'est à ces formes-là, à ces logiques-là, à ces vies rendues impossibles qu'il faut s'intéresser, et non pas aux statistiques de mort comme aux statistiques de l'insécurité. Parce qu'effectivement, elles sont plutôt en baisse.
Alors précisément, François Cusset, vous dites que plus ou moins de violence dans le monde, on ne sait pas, mais qu'en revanche, la violence est présente, voire omniprésente, qu'elle présente des modalités nouvelles que vous interrogez. Vous écrivez « la violence a moins reculé que changé de forme ». Quelles sont les formes actuelles, donc?
Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup,
que,
hein, ouais, oui.
Il faut, c'est-à-dire qu'après, ce que je fais, c'est que je fais un panorama, évidemment, qui est immense, donc impossible à faire exhaustivement, qui passe par les violences sexuelles, les violences écologiques, les violences géopolitiques, de la guerre, comme moindre mal, parce qu'après tout, voilà, pour pas choquer ses alliés, on va laisser un dictateur massacrer sa population. Il y a ces formes-là sont connues, mais ce que je montre, c'est que cette variété de formes contemporaines de violence est quand même à renvoyer à une logique d'ensemble qui est économique, qui est une forme d'économisme, c'est-à-dire, alors pas du tout au sens marxiste, au sens où c'est l'infrastructure qui déciderait de tout, hein, c'est pas de ça que je parle, mais au sens du sacrifice justifié par tout le monde, et là aussi par les élites, du précaire, du travailleur qui après tout est jetable et remplaçable, de l'enseignant qu'une caméra pourra remplacer si on fait un cours en ligne, du migrant dont on a besoin ni chez lui ni chez nous, cette logique sacrificielle générale qui est un discours nouveau, hein. Le capitalisme a pas toujours employé ce discours-là. Le capitalisme, je sais pas si un capitalisme modéré ça a un sens, ça fait un peu rire, on dirait une contradiction, mais il est sûr qu'il n'a pas toujours parlé dans ces termes-là. Aujourd'hui, il parle comme ça. Là, je voudrais renvoyer le slogan du gouvernement Macron qui est bon, on pourrait dire ça pourrait être le j'allais dire l'épitaphe, lapsus, l'exergue de mon livre, libérer les énergies. Donc évidemment, on a tous envie de libérer nos énergies, on a tous envie d'aller se défouler, c'est le week-end, on va aller faire du sport, on va danser, ça va faire du bien. Mais libérer les énergies dans la création d'entreprises, dans la croissance, dans l'économie, dans le développement, c'est précisément défouler cette rivalité, mettre en branle ces mécanismes de violence, sacrifier ceux qui n'y arrivent pas ou ceux dont on n'a pas besoin. Et il y a dans ce slogan-là qui se veut sympathique, hein, qui se veut moderne, presque la formule chimique de ce qu'est la violence contemporaine. On libère nos énergies individuellement, en rivalité les uns contre les autres, et ça fait beaucoup de mal.
Et pourtant, François Cusset, vous mettez à jour une forme de violence que vous qualifiez d'émancipatrice et qui pourrait être une sorte de la torpeur, si je vous ai bien lu.
Oui, alors je fais ça avec prudence et je veux surtout pas là faire disons œuvre politique directe. Simplement, il y a une étape importante dans mon argumentaire, c'est de dire qu'à toute époque, ces violences-là, inévitables, hein, attention, la vie et la violence c'est la même chose. Il y a pas de monde non violent ou sans violence. Après, ça n'empêche pas de repérer les formes nouvelles et de les condamner. Mais cette violence-là, à toute époque, a été ensuite compensée, cathartiquement déviée par différentes activités. On peut dire que toute la culture humaine, hein, on est sur France Culture, qu'est-ce que c'est que la culture ? C'est, sous toutes ses formes, une façon de dévier, d'évacuer, de recycler, de laver la violence rentrée qui est en nous. Ce que j'essaye de montrer, peut-être trop rapidement, c'est que ça marche plus. Ça marche plus parce que les formes même par lesquelles on passe sont elles aussi violentes. Regardez les images. Là, il n'y a pas d'image à la radio, mais regardez les images auxquelles ont affaire nos enfants ou nous-mêmes adultes. Elles sont en quantité et en qualité d'une violence telle qu'on a l'impression que le circuit cathartique ne fonctionne plus, que la violence rentrée est plus grande que jamais et qu'elle peut prendre des formes, effectivement, d'évacuation qu'on ne prévoit pas et qui seront violentes.
François Cusset, vous parliez très justement de France Culture, où nous sommes, très justement de culture et de cette façon qu'on a parfois de dévier. C'est précisément ce que nous faisons avec l'idée culture. Nous entrons dans le dernier quart d'heure de ces matins du samedi, les 8h46. L'idée culture, je vous le rappelle, c'est chaque samedi une personnalité du monde des idées qui nous confie son choix d'une œuvre culturelle, artistique, qui l'a particulièrement marquée dans sa vie. Qui avez-vous rencontré cette semaine, Émilie Chaudet ?
Eh bien, j'ai rencontré le sociologue et philosophe Raphaël Liogier qui vient de publier Au lien qui libère un essai intitulé « Descente au cœur du mal », une réflexion sur ce que le mouvement MeToo a eu pour conséquence dans sa manière de se penser homme, dans la manière qu'il a eu de penser sa virilité. Et l'œuvre qu'il a choisie, Raphaël Liogier, eh bien, elle n'est pas complètement éloigné de cette question.
Après réflexion, je me suis dit que l'œuvre qui m'avait probablement le plus marqué, c'était La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Bon, c'est assez banal de dire ça, parce que c'est une sorte de monument de la littérature française, mais je crois que c'est un monument qu'on ne finit jamais d'explorer. On m'avait tellement dit que Marcel Proust, c'était des phrases très longues, c'était très difficile. J'ai essayé à plusieurs reprises et je crois que j'étais prisonnier du préjugé de la phrase très longue. Et un jour, je me souviens, c'est assez tardif, j'avais la vingtaine. J'avais une amie que je trouvais fascinante, que je trouvais belle, intelligente, etc. Elle m'a dit « Ah, tu devrais lire Marcel Proust, je suis sûr que tu adorerais. » Ouais, bon, voilà. Alors évidemment, j'ai voulu comprendre ce qu'elle voulait dire. Alors j'ai commencé une première fois et c'était assez fastidieux. Je regardais les premières, deuxième, troisième pages, c'était difficile, j'y arrivais pas. Et un jour, j'ai commencé par le milieu et là j'étais vraiment emporté. Et au bout d'une dizaine de pages, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire que je suis reparti sur le début et là j'ai lu en entier. Je le lis toujours, je continue à le lire. J'ai de côté de mon lit une partie de la recherche, puis l'autre partie de l'autre côté, ça tourne. L'œuvre de Marcel Proust, enfin ce livre-là, en le lisant, par exemple, toute la partie sur Du côté de chez Swann, ça m'a fait réfléchir, eh bien, justement, au sens de ma virilité, en résonance avec mon dernier livre, et au sens de ma jalousie, de ce que pouvait être la jalousie, comment est-ce qu'on peut être hypocrite, comment est-ce qu'on peut croiser individuellement l'hypocrisie sociale, tout en ayant ce désir de vérité. Et on sent bien que Proust, il a ce désir de vérité. Je crois que c'est le propre des grandes œuvres, d'essayer de trouver la vérité dans toute sa complexité, dans tout ce qu'elle a de caché, et de rendre cette vérité qui est parfois sordide, parce qu'il faut bien reconnaître que la société telle qu'elle est décrite par Proust, elle est sordide à bien des égards, et en même temps, ce sordide devient magnifique, devient beau. Et on finit par soi-même, en tant que lecteur, à éprouver une sorte de sourire, de pitié, à en rire, et puis à s'identifier aussi. On peut s'identifier à ce qu'il y a de pire dans les personnages, qui peut rejoindre ce qu'il y a de pire en nous. Et je crois qu'on, dans une œuvre comme celle de Marcel Proust, on ne peut pas s'extraire, se déresponsabiliser. C'est-à-dire qu'en fait, on participe. Lorsqu'on est en train de lire, on est en train d'exister avec lui, ou alors on ne le lit pas vraiment. En définitive, il nous parle de nous. La partie qui regarde en particulier le personnage de Swann, qui est foncièrement jaloux, et qui est hypocrite, c'est-à-dire qu'il n'arrive même pas à regarder en face la nature même de sa jalousie. Et Odette, qui est méprisée parce qu'elle aurait fait un usage de son corps qui n'est pas bien séant, suppose qu'elle aurait eu énormément d'amants à Nice jadis, et lui le suppose aussi parce qu'on lui dit, on lui fait comprendre, on se moque un peu de lui, mais en même temps pas complètement. Tout ce processus étrange, hypocrite de la jalousie, qui est un processus dans lequel on voit bien qu'il considère le corps de cette femme comme lui appartenant, et en même temps lui-même se prétend évolué, raffiné, subtil, donc il n'ose pas aller jusqu'au bout de ce qu'il éprouve, de ce qu'il croit, de ce qu'il pense. Enfin, à 20 ans, lorsque je lisais ces passages, vraiment je ressentais un malaise. J'avais l'impression de vivre ce que vivait Swann, de prendre parti pour Swann, d'être triste, d'avoir pitié de lui. Alors qu'aujourd'hui, avec le temps, en relisant, puisque je vous dis que je le relis régulièrement, bien maintenant je suis du côté d'Odette et je suis du côté d'Albertine. Je crois que c'est ça qui a changé, c'est que je me suis rendu compte que je devais dépasser ce rapport fermé à la virilité. Et ça a libéré même mon rapport à la lecture de Proust.
Éloge de la recherche du temps perdu, donc, par Raphaël Liogier. Vous êtes lecteur, François Cusset, vous êtes écrivain vous-même. Êtes-vous arrivé au bout de la recherche du temps perdu?
Je crois que oui, c'est-à-dire que j'en suis même pas sûr, mais effectivement ça prend des décennies. Faut réapprendre à respirer, c'est une façon de respirer à la fois, parce que pour arriver à lire ces phrases très longues ou à les écrire, il faut une certaine capacité respiratoire, il y a un élément yoga peut-être, bizarrement, dans Proust, et parce que voilà, c'est une cathédrale dans laquelle on se perd volontiers, et c'est vaut mieux le faire sur des décennies que de s'enfermer pendant 2 mois et de tenter de tout lire d'un coup.
Proust qui nous ramène d'ailleurs au début de cet entretien avec vous, François Cusset, puisque le dernier livre de Nathalie Quintane s'intitule Ultra Proust. Nathalie Quintane qui lit aujourd'hui les textes du Comité Invisible dont elle se sent assez proche, c'est ce qu'elle expliquait dans Le Monde cette semaine.